Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous d'être venus pour Le vieux qui déjeunait seul de Léa Wiazemski aux éditions Michel Lafond. Alors Léa, vous avez 27 ans, c'est votre premier roman. Et avant, vous avez fait beaucoup de théâtre. Vous avez joué, je crois, Molière dans une pièce adaptée de Philippe Grimbert, la pièce de Frédéric Andreau, je crois.
Oui.
La petite robe de Paul, voilà. Vous avez joué dans des téléfilms, notamment chez Nina Companese et Benoît Jacquot, mais aussi au cinéma avec Bernardo Bertolucci et Costa Gavras. Alors là, vous publiez ce premier roman très délicat et qui donne à réfléchir sur le rapport entre les générations, avec une jeune fille serveuse dans un restaurant qui apprend à connaître l'un de ses clients réguliers, un vieil homme qui déjeune tous les jours seul. Mais chacun d'eux, la jeune fille et le vieil homme, portent un lourd secret qui pèse sur sa vie. Et en devenant amis, ils vont peu à peu se découvrir l'un l'autre. Alors tout d'abord, on aimerait savoir comment la comédienne que vous êtes trouve le temps d'écrire en plus des romans.
Ça a pris beaucoup de temps à écrire. Enfin, j'écrivais d'une manière assez régulière. Ça a dû prendre 4 ans. Donc, j'écrivais une fois de temps en temps quand l'inspiration venait. Voilà. Mais ça prend pas tant de temps que ça d'être comédienne. C'est beaucoup d'attente surtout.
Donc, vous écriviez en attendant les rôles.
Voilà.
Et ça, vous l'avez écrit par... Donc par petits bouts, vous semblez dire que c'est par chapitre, peu à peu.
Oui. L'idée est venue quand j'étais encore serveuse pour arrondir mes fins de mois et où je m'ennuyais terriblement derrière mon bar. Et voilà, j'ai imaginé cette rencontre entre cette jeune femme et ce vieux monsieur.
Donc vous avez été serveuse comme Clara, la jeune fille de 27 ans.
Oui, j'ai été serveuse pendant des années. Ouais.
Alors oui, d'ailleurs, j'ai dit que vous aviez 27 ans, mais en fait, je suis pas sûr.
Moi, je veux bien.
Oui, non, j'ai peut-être confondu avec... Oui, effectivement. Bon, on va dire ça, alors.
Oui, on va dire que j'ai 27 ans. Ça me va très bien.
Et alors, qui étaient vos premiers lecteurs? C'était des amis?
C'était des amis, une amie de ma mère aussi. Mmh. Et voilà, la première fois que je l'ai fait lire, c'était il y a 2 ans. Et puis pendant deux années, j'ai recorrigé avant qu'il soit envoyé chez Michel Lafond.
D'accord. Et alors, vous nous aviez dit tout à l'heure un peu comment ça s'était passé. C'était un manuscrit que vous aviez envoyé par la poste.
C'est une de mes amies qui l'a envoyé, directement chez Michel Lafond sans m'en parler. Voilà, elle a fait quelque chose de formidable. Voilà. Elle m'a énormément rendu service.
Oui, c'est quelque chose d'assez gentil qui arrive peu d'ailleurs. Et donc cette amie a été une de vos premières lectrices et
oui.
Elle s'est dit, il faut publier ce texte, je l'envoie à un éditeur.
Elle l'avait lu il y a 2 ans, il y a 3 ans, puis elle l'a relu il y a 1 an et demi. Et là, elle s'est dit, c'est le moment de... Comme elle voyait que je ne bougeais pas, elle s'est dit qu'il fallait prendre les choses en main.
Et alors, pour vous qui êtes majoritairement comédienne, ça a été un nouveau moyen d'expression?
En tout cas, c'était important pour moi d'aller au bout de cette histoire et de faire vivre ce vieux monsieur pour qui j'ai une tendresse énorme. Et plus qu'une tendresse même, je l'aime profondément. Donc voilà, j'avais besoin de l'accompagner jusqu'au bout.
Alors on va parler effectivement un peu de l'histoire. Ce vieux monsieur, vous parlez du personnage ou éventuellement d'un vieux monsieur qui aurait inspiré cette histoire?
C'est plutôt le personnage. Mmh. Voilà. Mais c'est plein de figures de grand-père comme ça... qui m'ont inspiré Clément, mais après, il est vraiment... il a son identité propre. Mmh.
Donc, ce sont des personnages auxquels vous vous êtes attaché pendant l'écriture?
Clément, oui. Clara, j'ai eu plus de mal, mais Clément, oui.
Parce que c'est un personnage, Clara, qui est une création pure et qui fait que vous aviez moins d'atomes crochus.
On se ressemble un petit peu dans nos goûts littéraires et musicaux, et dans cet amour du passé, et de ce sentiment aussi de ne pas être née dans la bonne époque. Mais sinon, non, elle est loin de moi et j'ai eu plus de mal à la trouver, à la capter.
Et dans cette histoire, il y a un troisième personnage qui s'appelle Bastien, qui s'entiche de la jeune serveuse.
Oui, Bastien, ça va être le deuxième sauveur de Clara. Clara va être sauvée par Clément, le vieil homme, puis par Bastien, voilà, qui vont lui redonner goût à la vie. Enfin, lui donner, parce qu'elle n'a jamais eu goût à la vie jusqu'à présent. Donc.
Et alors, vous mentionniez les goûts littéraires que vous aviez en commun avec ce personnage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? On pense à Illusion perdue de Balzac, qui est nommée.
Il y a Dumas, tous les Dumas. Je parle du Vicomte de Bragelonne, qui est pour moi un des plus émouvants, puisque c'est la fin des Trois Mousquetaires et c'est là où on les voit tous partir, sauf Aramis. Et puis de Michel Zévaco aussi, qui est un auteur de Cap et d'Épée, malheureusement assez méconnu, mais qui est franchement formidable, complètement anarchique et anarchiste et s'appropriant l'histoire de France encore plus que Dumas. Et puis Siménon aussi, dont je parle pas mal dans le livre.
Et on sent, au-delà de cette inspiration littéraire, que vous avez également des inspirations cinématographiques, parce qu'il y a des scènes assez visuelles. Ou je me trompe?
J'imagine que ça vient de mon métier et du fait que j'ai vu beaucoup de vieux films, enfin, entre autres Les Orgueilleux d'Allégret, qui est passé la semaine dernière. Et qui m'a, oui, enfin, qui moi est un des plus beaux films. Que j'ai vu jusqu'à présent.
Alors, dans cette histoire, ça commence avec un vieil homme qui vient chaque jour au café et il prend le même menu, mais bon, la serveuse lui donne quand même le menu à chaque fois en espérant une surprise. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de situation initiale ?
Comme je vous l'ai dit, j'étais serveuse, je m'ennuyais. Et imaginez ce vieil homme qui vient, qui a sa cantine, la même cantine tous les lundis, qui commande la même chose, qui boit la même chose, qui paye en liquide, qui est toujours seul, qui n'accompagne jamais ses repas d'un roman, sauf à un moment donné, il va venir avec Les Illusions perdues. Ça m'a intriguée de commencer l'histoire comme ça.
D'autant qu'un café, c'est un lieu, et en l'occurrence un restaurant, éminemment romanesque, où se croisent beaucoup de personnes, qui est un microcosme du grand monde.
Ah oui, puis on peut vraiment imaginer, sur chaque client qui vient, une histoire différente. Et c'est vrai que les habitués, on commence par les connaître assez vite et assez bien. On sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils veulent pas, leurs rêves.
Et vous abordez également un peu tous les aspects de la vie du café, avec les relations hiérarchiques, les relations amicales qui n'en sont pas vraiment.
Mais c'est pas facile d'être une femme dans la restauration. Surtout quand on cuisine, il n'y a que des hommes et que le bar est tenu par un homme, c'est pas assez, il faut trouver sa place. Et c'est pas toujours évident. Donc, et quand j'ai imaginé cette histoire, je travaillais justement dans un restaurant où l'ambiance n'était pas celle du café et qui était beaucoup moins sympathique. Voilà.
Est-ce que vos anciens collègues ont eu connaissance de ce roman ?
Non, je ne pense pas.
Bon, ma foi. En fait, ce qui va les relier, ces deux personnages, c'est leur goût pour la littérature.
C'est leur goût pour les illusions perdues de Balzac. Et puis, je pense qu'ils s'aiment déjà avant même de s'être parlé. C'est une forme de destin et d'évidence, de coup de foudre. voilà, ils s'appartiennent l'un l'autre déjà.
Oui, donc c'est une, c'est un coup de foudre d'amitié en fait.
C'est un coup de foudre filial. Enfin voilà, aussi, c'est le grand-père qu'elle n'a jamais eu et elle est la petite fille qu'il n'a pas eue non plus. Mmh.
Alors, et c'est marrant parce qu'il y a un des personnages dans le roman qui est un qui apparaît rapidement, qui est un vieux libraire, c'est ça, qui dit que les jeunes ne lisent plus. Mmh. Et pourtant, vous incarnez le contraire.
Oui, mais c'est vrai que les jeunes ne lisent plus. Malheureusement, enfin voilà, c'est on n'est pas nombreux encore à lire et à aimer lire et à aller dans les librairies acheter des livres. C'est dommage, mais j'ai l'impression que ça revient un peu quand même. Mais grâce à des romans de jeunes comme Harry Potter, ça a redonné goût à la lecture à des ados ou à des enfants qui ne lisaient pas.
Et vous, vous étiez quelle lectrice quand vous étiez adolescente ?
Moi, j'ai lu très tard. J'ai aimé lire très tard. Ça a commencé vers l'âge de 13 ans, presque 14 ans.
Oui, c'est pas trop tard.
Bah, pour mon environnement, ça semblait tard.
Oui.
Mais... Et voilà, ça a démarré par un roman qui m'a ouvert la porte de tous les autres, comme quoi tous les chemins mènent à Rome, mais voilà, qui était Angélique, marquise des Anges, dont j'avais adoré les films, et mon père, en désespoir de cause, ne me voyant pas lire, m'a dit, bah tiens, puisque t'aimes les films, lis les livres. Et voilà, j'ai lu les 13 volumes sans m'arrêter. Et puis de là, j'ai lu Hugo, Balzac, Flaubert, enfin voilà.
Et les rois maudits, si je crois.
Et les rois maudits, oui.
Si je ne me trompe pas. Et donc, vous avez en fait partagé une passion, ce qu'on lit sur la quatrième de couverture, que vous avez été bercé par l'amour de l'histoire. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Mon goût des romans historiques, moi, c'est ce que je préfère et j'adore les grandes aventures et les grandes épopées. Mon père m'a toujours, chaque dimanche, j'avais des cours d'histoire à l'heure du déjeuner, donc pour bien connaître les dates de l'histoire de France les plus importantes. Je pense que ça vient de là. Et puis d'Angélique qui m'a aussi énormément fait découvrir une période de l'histoire que j'ai adorée, qui était... tout le règne de Louis XIV avec toute la colonisation du Québec et de là voilà est né après Dumas est arrivé et là ça a été une grande histoire d'amour qui a commencé.
Et est-ce que c'est aussi en vertu de cet amour pour l'histoire que vous avez eu l'idée d'ancrer ce roman dans une réalité historique qui est en l'occurrence la Deuxième Guerre mondiale?
Non, je pense que ça n'a rien à voir avec... Enfin, pour moi, c'est pas de l'histoire. Enfin, c'est pas l'histoire telle que je la vois. Ça reste le présent, puisqu'on a encore des témoins de cette histoire-là, plus beaucoup, mais on en a. Donc, moi, mes grands-parents l'ont vécu, ma mère l'a vécu. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très présent encore aujourd'hui, dont je ne me remets pas, en fait.
Oui, parce que tel est le secret du vieil homme qui vient chaque jour, c'est qu'il a été dans un camp.
C'est un vieux déporté qui a perdu sa femme dans les camps et qui n'a jamais réussi à refaire sa vie et à se reconstruire.
Et à la faveur d'un moment où il remonte sa manche parce qu'il a trop chaud, on voit sur son bras un tatouage... qui bouleverse beaucoup la narratrice qui est la jeune serveuse, parce qu'elle-même a un passé qui est lié aussi à cette époque, à ces événements.
C'est une petite fille de Colabo, qui n'a pas connu son grand-père Colabo, mais qui porte cette espèce de poids et de culpabilité qu'elle n'a pas apporté, mais qu'elle porte quand même malgré elle. Et que sa mère a porté avant elle.
De sorte que vous, en fait, vous avez créé un personnage qui est un peu à l'opposé de vous, puisque c'est une fille qui a des grands-parents collabos.
Ah oui, totalement. Dieu merci. Enfin, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas eu à vivre ça. Mais je me suis toujours demandé ce que ça pouvait faire d'avoir dans sa famille quelqu'un qui avait collaboré, ou ça doit être assez douloureux à porter, je pense, encore aujourd'hui. On voit la culpabilité de certains Allemands, et je pense qu'en France, il doit y avoir aussi cette culpabilité-là.
Et comment vous êtes-vous mise dans la peau de cette jeune fille?
Assez facilement, en fait. Mais comme elle est vraiment le reflet de Clément, c'est dans le regard de Clément qu'elle naît.
Et alors, est-ce que vous avez pensé également que ce livre pouvait être aussi une invitation à la rencontre entre les générations?
J'y ai pas pensé en l'écrivant, mais c'est évident que qu'on a besoin, nous les jeunes, de nos grands-parents. Je trouve qu'il y a, à part un père et une mère, je vois pas ce qu'il y a de plus indispensable pour forger un être. Des grands-parents, c'est quand on en a, c'est merveilleux, il faut savoir en profiter. Les vieilles personnes, elles ont tellement de choses à nous apprendre, elles ont tellement d'histoires que moi, je pourrais les écouter pendant des heures. Donc, n'ayant plus mes grands-parents, malheureusement, maintenant, ça reste un manque.
Vous pourriez les écouter pendant des heures. C'est le cas aussi de Clara qui finalement se fait un grand ami de ce Clément avec qui elle part même en excursion dans le sud.
Oui, ça devient son grand-père, en fait. C'est vraiment. Enfin, ça devient la personne qui lui donne l'absolution, qui lui dit qu'elle a le droit, elle n'a pas à porter ce poids, qu'elle a à se pardonner, qu'elle a à être heureuse, qu'elle a tout pour être heureuse. Et c'est lui qui va lui prendre la main et l'emmener vers sa vie, qu'elle doit enfin accomplir. Et le Sud, oui, ils partent 3-4 jours au bord de la Méditerranée où Clément passait ses vacances enfant. Et où il a rencontré sa femme juste avant la guerre.
Donc pour lui, c'est également une bénédiction de voir cette jeune fille entrer dans sa vie qui lui permet de faire revivre tous ses vieux souvenirs.
Bah, c'est son dernier cadeau. Enfin, c'est ça. C'est finalement, il est resté vivant. Peut-être qu'il a survécu à toutes ces horreurs et à toute cette solitude pour arriver jusqu'à Clara.
Et alors, comment avez-vous eu l'envie ou l'idée de faire ce roman qui est polyphonique? C'est ça aussi la particularité du roman, c'est que ce sont des narrateurs à la première personne qui se succèdent et qui sont tous différents. Enfin, il y en a trois différents.
Parce que bêtement, je suis terrifiée par les dialogues, donc ça me semblait plus simple d'écrire des monologues. Voilà. Et puis ça permet de rentrer plus dans la peau de chaque personnage et de parler au nom d'eux à chaque fois. Voilà. Et étrangement, ça a été plus facile de me mettre dans la peau de Clément et de parler comme lui que de parler comme Clara ou comme Bastien.
Et vous avez essayé d'adopter pour chacun d'eux des manières un petit peu différentes de parler?
Clément, c'est venu naturellement. Clara, comme elle a un côté un peu désuet, vieillot, ils ont un peu une façon de parler identique, enfin similaire. Et Bastien, c'est plus compliqué parce que c'est un jeune d'aujourd'hui qui parle comme un jeune d'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu plus de mal à le capter.
Oui, c'est pas forcément évident d'utiliser un registre de langage plus châtié pour un personnage.
Non, c'était voilà. Là, mon éditeur m'a beaucoup aidé pour ce
En
travail-là.
vous disant d'en rajouter dans le.
En me disant de développer Bastien, de le rendre plus contemporain, de le rendre plus présent, de lui donner plus de consistance et de matière, ouais.
Mais c'est vrai que c'est un personnage qui existe fortement et qui crée un contrepoint aussi à cette histoire, d'autant que Clément encourage et entre guillemets bénit cette union.
Ah, il bénit totalement cette union. Enfin, en tout cas, il donne. Voilà, il remet Clara entre les mains de Bastien à la fin du livre, oui. Pour qu'il continue, enfin, pour que pour qu'ils continuent leur vie ensemble et qu'ils trouvent le bonheur ensemble. Mmh. Clément est un peu comme un ange gardien ou un bon génie qu'on rencontre parfois dans sa vie, qui tout d'un coup donne un coup de pouce au destin.
Et en premier lieu, Bastien voyait un peu d'un mauvais œil cette relation entre Clara et Clément parce qu'il ne la comprenait pas.
Bah, ça paraît toujours louche, un vieux monsieur avec une jeune fille. On se demande ce qu'il fricote, mais ça peut aussi être très beau et très simple et sans aucune ambiguïté.
Voilà. Oui, parce que vous dites aussi qu'une amitié peut être possible par-delà les générations.
Ah oui, totalement. Totalement. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on s'ennuierait.
Et le vieillard est pour elle un soleil. Je crois qu'il y a une ou deux fois cette comparaison. Est-ce que c'est parce que pour elle aussi, il y a un besoin de racine qui se fait sentir?
Ah bah elle en a pas, parce que c'est un de ses grands-pères était collabo. Les autres grands-parents n'ont pas existé puisque le père de Clara est un enfant de la DAS. Donc non, elle a pas de racines à part ses parents. Et donc oui, Clément lui l'ancre en fait. L'ancre dans la réalité, dans la vie, dans la joie, dans l'amour. Mmh. Et c'est effectivement, il est très solaire, Clément. Malgré toutes les horreurs qu'il a traversées, c'est un personnage lumineux et joyeux.
Pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous le percevez ?
Ah bah, je l'aime, c'est difficile de parler de quelqu'un qu'on aime comme ça, mais c'est un rêveur, c'est un poète, c'est un grand-père dans l'âme, même s'il ne l'a jamais été, c'est un généreux, c'est un bienveillant, comme l'a dit Pierre Ninet il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est un bienveillant, j'ai bien aimé ce mot.
Donc Pierre Ninet a lu ce roman.
Non, il a non, non, ah. Non. C'était pas en parlant de mon livre, c'était quand il a reçu son César. J'aurais bien aimé qu'il lui... Non, il parlait des bienveillants et j'ai trouvé ça très beau, cette expression. Voilà, c'est vrai que des bienveillants, il y en a pas beaucoup, et quand on en trouve un ou deux, faut pas les lâcher.
Voilà. Ça c'est vrai. Oui, on sent quelques allusions aussi à des personnages réels, par exemple, là mon accent espagnol va surgir.
Semprún.
Voilà, alors Semprún, qui est mort il y a 2 ans, je crois,
oui.
Apparaît de façon allusive dans le roman.
Mais c'est un compagnon de retour de Clément, de retour des camps. Donc oui, Clément va le voir à la fin du livre. Pour lui demander d'écrire à Clara. Donc, et ça, j'ai écrit ce passage quelques semaines avant que Semprún ne s'en aille.
Mais lorsque Clara trouve en cet homme, Clément est aussi, vous parliez d'une bienveillance, d'une faculté à rêver. Ce sont aussi des facultés qu'elle dit ne plus trouver chez les garçons de son âge, hein, parce qu'au départ, Bastien, elle se dit, oh, il est comme tous les autres.
Elle regarde un peu tout ça d'un œil suspicieux, mais c'est vrai que notre génération rêve pas beaucoup et qu'on s'engage pas beaucoup. Donc les garçons d'aujourd'hui font peur aux jeunes filles qui ont envie de rêver.
Voilà. Vous croyez que c'est dû à quoi ?
Je sais pas, je pense qu'ils ont très peur aussi, les garçons, mais on en trouve qui sont différents, Dieu merci, hein. Il y en a encore des princes charmants.
Ben en l'occurrence, le fameux Bastien, qui au départ ne fait pas forte impression à notre héroïne.
Ben il va changer à son contact.
Et finalement, on se rend compte que voilà, c'est un type qui demandait qu'à être révélé.
Oui. Bah comme Clara, enfin c'est un peu l'effet papillon, quoi. Il suffit d'un battement, d'un élément. Un élément peut changer plusieurs vies. Et l'élément, c'est Clément. Voilà.
Alors, comment avez-vous fait pour mêler ces deux ambiances? Au départ, une ambiance très. Une ambiance de café, donc très, très chaleureuse, etc. Avec, après, un récit qui est plus dur, qui est plus âpre, dans la mesure où on découvre le passé de Clément, qui est quelque chose d'assez noir.
Bah, je sais pas quoi répondre, mais. C'est la suite de l'histoire. Enfin, je pouvais pas rester dans le café éternellement, et il fallait de toute manière parler de ce côté historique et de ce qu'il avait vécu et de ses souffrances.
Mais qu'est-ce que ça a impliqué dans votre écriture, je veux dire, de verser tout doucement vers ce versant noir?
C'était une suite logique. Enfin, ça a été assez simple finalement, parce que je savais qui était Clément, je savais ce qu'il avait traversé, je savais pas encore comment j'allais le raconter, mais voilà, la torture, je sais que ça a été compliqué parce que finalement on n'en parle pas enfin, ceux qui ont été torturés en ont très très peu parlé, c'est avec des mots pudiques. Donc au départ j'avais écrit vraiment les détails, et puis en fait je me suis rendu compte que c'était pas logique, en tout cas ça ressemblait pas à Clément. S'il parle de la torture, il va en parler avec des mots simples et sans y toucher vraiment, parce que c'est trop douloureux. Pardon.
Alors, il y a un personnage, donc le personnage de Bastien, qui vient de Bordeaux. Il se trouve que nous sommes à Bordeaux. Et est-ce que vous avez des attaches avec cette ville, et qu'est-ce qui vous a donné envie de placer un personnage dans cet endroit?
Bah, parce que j'aime énormément Bordeaux, et c'est un peu ma, voilà, avec Paris, c'est un peu ma deuxième ville. Donc ça me semblait logique que Bastien, enfin voilà, qu'il y ait forcément un rapport à Bordeaux, même si petit soit-il, qui apparaisse.
Et vous pourriez nous parler un peu de ses attaches, parce que est-ce que c'est Bordeaux même ou c'est dans la région?
C'est Bordeaux et sa région, ouais. Tout le Bordelais qui est, enfin c'est la plus belle région de France, hein, faut pas se mentir.
Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ce Bastien pour que finalement il y ait ce revirement de situation? Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire?
Il va regarder Clara autrement, et puis à travers son regard à elle qui change sur la vie, il va se rendre compte que lui aussi est capable d'aimer, et qu'il est capable de donner, qu'il a envie surtout de donner, parce que c'est pas tant être capable, c'est d'avoir envie d'eux, et que lui aussi va rencontrer Clément. Qui va, au départ, qu'il regarde un peu avec un regard suspicieux, inquiet, et finalement, lui aussi, va tomber en amour de ce vieux monsieur.
Parce qu'au départ, Clément est un personnage... Histoire d'iPhone. Clément est un personnage qui n'est pas forcément très sympa... Bastien est un personnage qui, au départ, n'est pas très sympathique.
Non, c'est le stéréotype du jeune qui sort, qui drague, peut-être qui prend même un peu de drogue. Enfin, voilà, c'est le monde de la nuit. Donc, c'est pas un milieu. Pour la romantique, pour la rêveuse qu'est Clara, ça la fait pas rêver.
Oui, parce qu'en fait, c'est une fille qui a été un peu parachutée d'une autre époque.
Ah oui, elle est complètement décalée. Elle a des goûts très, très décalés. Et une manière de parler aussi décalée.
C'est aussi ça qui arrive à faire communauté avec Clément, d'ailleurs. C'est ouais. En cela aussi qu'ils se rejoignent.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous avez eu besoin ou envie de vous documenter pour, notamment pour illustrer la vie de descendants de collabos?
Non. Non, donc si ça se trouve, ce que je dis est... Enfin, voilà, peut-être qu'il n'y a aucun petit enfant de collabo qui a cette culpabilité, donc c'est totalement... Non, j'ai pas cherché à me renseigner.
Non, parce qu'il y a deux manières de voir, où on peut essayer de rester très près, très proche des faits, très proche des témoignages, où on peut s'accorder la liberté de l'écrivain.
C'est une totale liberté. Là, le seul, c'est sur Guingouin où je me suis un peu renseignée parce que j'avais peur de dire des bêtises sur quelle année, quelle période et tout ça. Mais à part ça, non. J'ai laissé mon imagination couler.
Cela dit, imagination qui partait quand même d'un fond de lecture, parce que comme vous aimez l'histoire...
Ah oui, oui, totalement, oui.
Donc c'était une... Oui, oui, ça partait de lecture d'enfance ou de lecture...
La guerre est quelque chose de très présent chez moi. Enfin, j'ai grandi avec, donc c'est vrai que... Enfin voilà, c'était hier... Ça, enfin, c'est aussi étonnant que cela puisse paraître. J'ai vraiment été bercée avec des récits, avec des. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui l'avaient vécu, qui l'avaient faite. Donc ça a bercé mon enfance.
Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui a fait que Clément a été amené à se retrouver dans un camp ?
Mais c'est un résistant. Donc il a été déporté en tant que résistant. Il n'est pas juif, sa femme l'est, mais lui ne l'est pas. Et voilà, c'est en tant que résistant, comme Semprun, qui va être déporté.
Et il a résisté parce que, comme De Gaulle que vous citez dans le livre, il se faisait une certaine idée de la France.
Oui, j'aime bien cette phrase de De Gaulle.
Et Clément, c'est plutôt un grand lecteur aussi ou...
Ah oui, c'est un grand lecteur et c'est un amoureux de son pays. Ben voilà, il aime son pays et s'il fallait se rebattre demain pour lui, il le ferait. En tout cas, de se battre pour la liberté.
Il y a aussi dans ce roman une forme de romantisme de l'héroïne qui lui aussi est héritée d'une certaine tradition littéraire.
Ben, on le retrouve chez... ça vient d'Angélique, ça vient de Dumas, ça vient de... Oui, de tous ces personnages féminins qu'on rencontre au cours de ces lectures. Ou des Illusions perdues aussi.
Oui, dans Illusions perdues, il y a aussi ces personnages très passionnés.
Coralie, oui.
Et donc c'est vrai que ce roman qui est en même temps moderne dans sa forme polyphonique, a en même temps... une filiation assez traditionnelle.
Oui. Et puis on retrouve, enfin, il y a beaucoup de références à Trenet, à Piaf, voilà, à une époque qui n'est pas celle de Clara, qui n'est pas ce qu'écoutent les jeunes aujourd'hui.
Est-ce que vous chantez, vous ?
Oui, j'adore ça.
Sous la douche ou dans l'absolu ?
Les deux.
Et oui, parce qu'effectivement, il y a marqué sur la quatrième de couverture que vous aimez beaucoup Trenet. Et il y a quelques allusions, il y a Douce France, notamment.
Oui, bah, Trenet, c'est quand même...
Puis ça restitue une époque aussi.
Bah, si on devait en garder qu'un, moi je garderais celui-là. Mais enfin, c'est un poète magnifique et un compositeur sublime. Donc, et puis c'est totalement... totalement adaptable aujourd'hui. Enfin, on peut revisiter du Trenet de toutes les manières que ce soit. Enfin, ça peut même être du hard rock si on veut ou du rock. C'est incroyable.
C'est vrai. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que signifie pour Clément ce retour dans le sud quand il revient avec Clara? Dans le sud, sur ses terres d'origine.
Bah, j'ai pas trop envie de dévoiler, mais c'est comme, enfin voilà, c'est comme un pèlerinage avant de quitter le navire. Enfin, c'est vraiment un retour aux sources, histoire de bien fermer, mettre un point à sa vie avec son enfant de cœur qui s'est choisi. Et en plus, ça va être aussi une vraie découverte pour Clara de découvrir le sud, la Méditerranée, de voir la mer pour la première fois, parce qu'elle ne l'a jamais vue.
Oui, parce que pour elle, c'est un... Ce Clément est un formidable. Il fait découvrir des choses, quoi. C'est un type qui lui fait découvrir plein de choses.
Ah oui, totalement. Comme un grand-père.
Au point qu'elle elle passe ses après-midi avec lui.
Ils passent leurs après-midi chez les bouquinistes ou au cinéma, du cinéma rétro, ou à regarder des albums photos de Clément, ou à se promener dans des jardins parisiens. Enfin, vraiment ce que fait un enfant avec son grand-père ou sa grand-mère. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai fait.
Alors, est-ce que vous avez un autre manuscrit sur le feu ?
J'ai une idée. Maintenant, il faut lui laisser le temps. Je suis pas très rapide, hein, donc faut lui laisser le temps de germer doucement.
Auparavant, vous aviez écrit des bouts de texte,
j'ai écrit mon journal ou des poèmes ou des petites choses comme ça, mais rien qui n'a été terminé en tout cas.
Mais un jour, vous vous êtes dit que vous aviez envie de faire un projet, de mener à bien un projet entier.
Oui, je ne reviens pas de l'avoir fait d'ailleurs, mais il fallait que Clément et Clara s'accompagnent jusqu'au bout. Enfin, ce n'est pas un livre triste, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Non, mais, c'est vrai. C'est vrai. Puis il y a des passages d'amour assez touchants. Merci beaucoup.
Merci.